En 2012, nous fêtons le, si je puis dire, le 440e anniversaire du massacre de la Saint-Barthélemy. Et cela nous donne l'occasion de nous étonner de l'existence de violences religieuses. Heureusement que la foi n'a pas produit que des massacres. Elle a également produit, et elle produit tous les jours, des fruits magnifiques, merveilleux de bonté et de créativité. Mais il est très étonnant, surtout compte tenu des idéaux qui sont portés par l'Évangile du Christ, qu'il existe de la violence religieuse et particulièrement en notre sein. Puisque Dieu est la source ultime de la vie, il est paradoxal que la foi en Dieu puisse, même si c'est seulement parfois, produire de l'intolérance, de la haine et même des massacres. Alors il serait malhonnête, bien entendu, certains ne s'en privent pas, de dire que la foi ou la religion ont le monopole de la violence, ni même qu'elle surpasse d'autres formes de pensée dans ce domaine. Les plus grands massacres commis dans l'histoire de l'humanité, particulièrement au XXe siècle, ont été commis pour bien d'autres raisons que pour des raisons religieuses. Bon, ça, on a de la chance quand même sur ce coup. Les massacres de Mao, de Staline, d'Hitler, de Pol Pot, ou les massacres du Rwanda, que sais-je, n'étaient associés à nulle discussion théologique que je sache. Bien souvent, même quand la religion a une place dans la violence, c'est qu'elle est mêlée à de la politique ou à des luttes de pouvoir, comme pour le massacre de la Saint-Barthélemy. Bon, il est motivé en grande partie par des questions de politique intérieure, de politique internationale, et puis des questions de pouvoir personnel, bien entendu. Mais la Saint-Barthélemy est motivée aussi, en partie, il faut bien le reconnaître, par des questions religieuses, avec de virulents débats d'idées qui ont produit des bibliothèques entières de controverses théologiques. Alors c'est quand même étonnant, je trouve, qu'on puisse en venir au meurtre pour des idées ou pour des questions de foi. Ça ne vous semble pas incroyable? En quoi les idées et la façon de prier des autres me gêneraient-elles? Et comment est-ce que de telles questions pourraient nous faire régresser au point de devenir de fous furieux? Dans le royaume de France, qu'est-ce qui empêchait les uns de prier à la façon catholique, les autres de prier à la façon réformée en chantant des psaumes? Quel problème? C'est que les causes et l'énergie qui alimentent, si vous voulez, l'intégrisme sont très profondes. Elles sont théologiques et elles sont aussi psychologiques, existentielles. Et elles sont valables d'une certaine façon pour les croyants comme pour les athées. Nous n'avons pas le monopole de l'intégrisme ni de la violence pour des idées. Je vais vous lire une page de l'Évangile selon Luc où Jésus nous donne, je crois, des pistes fondamentales pour nous soigner de l'intégrisme. Et ces orientations peuvent non seulement nous aider à être un peu moins intégristes nous-mêmes, mais encore à bénéficier d'une foi plus vivante et d'une foi plus vivifiante pour les autres, et peut-être même à mieux arriver à encaisser, comme on dit, les critiques, les menaces, les procès d'intention et autres injures de la part de personnes qui nous attaquent pour notre foi, pour nos idées. Voilà. Alors c'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, à partir du verset 46. Cela se passe à un moment où Jésus commence à monter vers Jérusalem. Une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Jésus, qui connaissait la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, parmi tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Alors nous l'en avons empêché parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Jésus lui dit, « Ne l'en empêchez pas, en effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem et il envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui et trouver un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Alors à cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions au feu du ciel de descendre et de les consumer ?» Il se tourna vers eux et il les reprit sévèrement en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Ô Éternel notre Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter le cantique numéro 343 dans le petit recueil « Louanges et prières ». « Seigneur, accorde-moi d'aimer, il faut bien que ta main m'y pousse. » Les trois strophes de ce cantique 343. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir un royaume d'amour et de paix que tu espères, en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de la parole, source de nouveauté de vie. Jésus nous donne donc 6 conseils dans cette page d'Évangile pour travailler la question de la violence pour la foi, pour les idées. Les 3 premiers concernent d'abord notre relation aux autres dans le domaine des idées, et les 3 suivants concernent notre propre dynamique de vie, d'évolution à la suite du Christ. Alors le texte commence avec cette question des disciples pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Jésus répond que le plus grand est celui qui est le plus petit, et cela ressemble à un paradoxe, comme le font parfois des philosophes par coquetterie. Mais non, c'est en réalité tout simple. Jésus nous dit que ce qui fait notre grandeur, c'est ce qui fait la grandeur d'un enfant. Alors nous savons bien ce qui fait l'infinie valeur d'un enfant pour nous, c'est d'abord l'amour que lui portent ses parents, ses frères, l'espérance qu'il place en lui. La valeur d'un enfant, c'est donc fondamentalement qu'il a la vie devant lui et qu'il est doué d'une croissance naturelle, qu'il a soif d'apprendre. Et la valeur d'un enfant n'est pas ni dans sa force, ni dans son savoir, ni dans son intelligence comparée à un adulte, bien sûr. Et le fait de grandir et éventuellement d'être aimé par ses parents, cela lui est donné comme un cadeau. Et donc Jésus nous propose ainsi une conception de notre grandeur qui bouleverse un principe de fonctionnement très profond en nous, que nous partageons avec nos cousins, les chiens de meute, qui se battent pour être celui qui va dominer sur toute la meute et qui pourra être le premier pour traîner le traîneau, par exemple. Alors, selon Jésus, nous n'avons rien à faire pour mériter notre grandeur, elle est juste à accueillir comme on accueille un enfant, en fait. Il y a un lien fondamental entre notre notion de la grandeur et notre théologie. De nombreuses personnes ont une théologie du Dieu tout-puissant, immuable, faisant vivre et mourir comme il veut, sélectionnant les personnes tantôt selon son bon vouloir, son arbitraire, tantôt selon une justice tirée au cordeau qui ne fait aucune pitié. Cette théologie va avec une certaine conception de la grandeur. Dieu est alors le plus grand parce qu'il est le dominant. Cette théologie profite au clergé qui hérite d'une part de cette domination sur les autres et il peut en utiliser par la menace, par exemple, ou pour dire « ben voilà, vous serez bénis ». Cette théologie induit une façon de comprendre et de chercher à construire sa propre dignité à ses yeux en se mesurant aux autres et puis en essayant de les surpasser. Cette conception de la dignité humaine n'est pas réservée aux croyants, bien sûr. Nous l'héritons tous, croyants comme incroyants, de toute philosophie, de tout poil, et ceux qui n'ont aucune philosophie peut-être encore plus, nous l'héritons avec nos instincts. Jésus nous propose de changer pour la théologie de la grandeur de l'enfant. Bien des violences, en fait, ont été enfantées par la conception de la grandeur dominante. Par exemple, quand un homme mâle méprise les femmes, d'un coup, il se trouve dans les 50% des humains les plus grands. C'est déjà pas mal. S'il méprise alors en plus les homosexuels, il gagne 5 à 8% de plus dans toutes les civilisations. Voilà, c'est pas mal. S'il méprise les gens un peu plus foncés ou un peu plus clairs que lui, il peut encore gagner en France peut-être 15% dans sa propre estime. Il lui reste à mépriser peut-être ceux qui ont une autre foi, un autre parti, son voisin qui a un bouton sur le nez, qui a moins de sous, je ne sais pas quoi, et on s'en sort assez bien. Mais mon estime de moi-même est alors basée finalement sur la comparaison avec les autres. Et si quelqu'un ridiculise une de mes idées, ou une de mes appartenances, parce que je suis, je ne sais pas moi, je suis alsacien, bon, c'est d'un coup, ça ruine d'un coup de lourds pourcents finalement d'estime de moi-même. Ça me met en danger, si vous voulez. Sans compter que celui qui a dominé mes idées, qui a dû me faire reconnaître que j'avais tort, il m'a dominé, donc il m'a humilié, il m'a encore rabaissé à mes yeux. Alors que dans la théologie de la grandeur de l'enfant, quand quelqu'un me fait changer d'idée, eh bien en fait il m'a grandi parce que j'ai appris quelque chose, j'ai évolué, j'ai été vivant. Alors pour celui qui est sous la théologie de la domination, si quelqu'un vient même jusqu'à remettre cette propre conception finalement de la grandeur, à ce moment-là tout s'écroule pour lui jusqu'au sentiment même de sa dignité, quelque chose vacille d'essentiel, vous comprenez. Alors on comprend le mal qu'a eu Jésus de remettre en cause l'idée d'un Dieu dominateur en disant comme ça, comme en passant, que Dieu est amour et qu'il aime et cajole même ses ennemis, qu'il considère de toute façon chaque personne comme son enfant bien-aimé. Et voilà même Jésus qui nous dit que Dieu est le plus grand, mais non pas comme Zeus, mais plutôt comme un enfant que l'on reçoit au nom du Christ. Le plus grand des plus grands, ben c'est le plus petit. Celui qui accueille un enfant, accueille au nom du Christ, accueille Dieu lui-même. Alors même si nous nous rendons compte que nous avons été pas très bon, pas tout à fait à la hauteur, mauvais par rapport à nos idéaux, ou que nous ne sommes pas bien costauds, nous n'avons rien à craindre dans cette théologie-là, parce que oui, nous sommes petits, mais nous sommes comme un enfant, aimés comme un enfant, et puis promis à une croissance, si vous voulez. Donc il y a cette espérance, tout n'est pas fini parce que je suis un peu nul. Dans cette théologie du Christ, si une autre personne a une pensée ou des habitudes ou une couleur ou un sexe différent ou moins de sous ou trop de sous peut-être, ou s'il est pénible, eh bien la différence ou la petitesse de l'autre ne sont en rien une agression à ma propre valeur, à mes yeux. Et donc ça c'est la seconde idée finalement que Jésus va proposer à ses disciples quand ils avouent ensuite, un peu gênés, qu'ils ont empêché un homme de faire le bien parce qu'il le faisait hors du groupe. Jésus répond, « Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Or les disciples, ils n'avaient pas dit, ils avaient dit, il ne nous suit pas, c'est-à-dire sous-entendu, ils ne suivent pas toi, Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu. Alors c'est vrai qu'ils ne suivaient pas Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, dans le groupe des disciples. Et ils en avaient déduit dans leur système de pensée d'un Dieu dominant, si tu veux, où tout le monde doit faire une seule tête, que l'homme devait être neutralisé comme ennemi de Dieu. C'est une logique implacable. Mais Jésus comprend que leur réaction, en fait, est le symptôme d'une maladie plus profonde. Jésus leur répond, « Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Ne l'en empêchez pas. C'est-à-dire que derrière la question de la théologie, ce qui est en question, ce qui est vraiment profondément en question, c'est que les disciples se sentent personnellement offensés par le fait que cette personne ne les suit pas, eux, en fait. Cela offense leur sentiment de leur propre grandeur, cela les met en danger, et même si dans une certaine façon il est fidèle au Christ à sa façon, ça ne leur convient pas, bien sûr. Il faut croire que la première idée que nous a proposée Jésus avait quand même commencé à faire vaciller leur intégrisme, car avant ils n'avaient pas douté une seconde, ils n'avaient rien demandé à Jésus, hop, sus à l'hérétique, c'était une évidence qu'il fallait être dominant pour rendre gloire à Dieu, qu'il pensait être dominateur. La seconde idée, donc, que Jésus nous propose est une bonne piste, je crois, pour avancer. Quand il nous prend l'envie de remettre en cause le cheminement de quelqu'un d'autre, on pourrait se demander d'abord, au fond, qu'est-ce qui me gêne vraiment? Si je veux être honnête, bien me regarder. Et c'est l'annonce de la grâce de Dieu aide, justement, à nous avoir peut-être moins peur de nous regarder. N'est-ce pas seulement que ce type ne me suit pas moi, finalement? Que cela offense l'idée que j'ai de moi-même ou la valeur que je donne à mes propres idées? Parce que s'il n'a pas les mêmes idées que moi, peut-être que mes idées ne sont pas parfaites, nickel, chrome. Ou qu'il risque d'attirer des disciples pour le suivre lui, en dehors de ma chapelle à moi. Même si mon cercle d'amis, de disciples, était 100% celui de Jésus-Christ lui-même, comme dans ce récit de l'Évangile, ce ne serait pas une raison pour empêcher les autres de penser, de vivre autrement. Sauf, bien sûr, c'est ce que dit Jésus, si l'autre fait du mal, si l'autre est contre nous, c'est-à-dire contre les petits, contre les enfants, contre la vie même, alors là, ce serait autre chose, oui, il faut le reconnaître, bien sûr. Bref, ce récit nous propose de nous poser à chaque fois dans nos combats la question devant Dieu, devant le Dieu qui accueille chaque enfant, plutôt que de trancher d'un coup. Peut-être alors reconnaîtrons-nous l'enfant là où nous n'avions vu qu'un sale type. Troisième étape, les disciples ont encore un peu progressé. Maintenant, c'est quand même devant Dieu qu'ils méditent leur projet de domination. Ils demandent conseil au Christ face à un problème de sales hérétiques encore, qui refusent cette fois-là carrément de recevoir le Christ qui était juste de passage. Quelle horreur! Le problème est que ses disciples ont été habitués finalement à une théologie de la terreur. Alors c'est vrai que la Bible est pleine d'histoires horribles avec une interprétation trop fréquente qui consiste à y lire l'histoire d'un Dieu dominant qui tue 1000 personnes pour les éprouver ou pour les punir ou pour faire place à ses chouchous dans sa terre. Sauf que ça ne tient pas, car visiblement, la situation échappe sans cesse à ce Dieu qui serait censé être dominant. Et donc il est possible, bien entendu, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'invente, cela fait des milliers d'années, il est possible d'interpréter autrement ces histoires horribles, mais il a été et il est encore parfois tiré des menaces de mort, bien sûr, de ces histoires. Si vous ne marchez pas tout droit, si vous pensez de travers, si vous ne donnez pas assez d'argent pour l'Église, etc., si vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur, eh bien Dieu vous fera subir des peines infinies et éternelles. Alors du coup, cette domination par la violence devient une logique, si vous voulez, dans l'esprit de ces disciples qui ont entendu de ces croyants sincères. Et ils ont du coup une idée de ce qui est juste, une idée d'un rapport juste avec les autres, par la domination. Mais Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes avec cette démarche, avec ces horreurs de foudre qui descendent du ciel pour tuer les hérétiques, ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ. Quelle horreur! Alors ce n'est en tout cas certainement pas le souffle de l'Esprit de Dieu qui vous anime avec de telles pensées, car Dieu est le Dieu de la vie. En lui, Christ et nous, les fils et les filles d'Adam que nous sommes, sont là pour sauver les hommes et non pour perdre leur vie, pour sauver chacun et non pour en perdre un seul. Ces massacres de la Bible, donc, ne décrivent pas la mort et les peines éternelles des hérétiques, mais au contraire, la destruction de la méchanceté en chacun de nous, finalement, dans l'homme avec un grand H, a commencé, oui, par notre difficulté de supporter les autres. Alors, avec cette troisième idée, nous pouvons examiner notre théologie sur le plan de ce critère. Est-ce que l'idée que je me fais de Dieu, est-ce que ma lecture de la Bible, Est-ce que l'idée que je me fais de ce qui est juste est compatible avec l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants? Jésus n'excluait personne au cours de sa vie, donc Dieu n'exclura personne de son salut. Le berger dont parle Dieu quelques pages après dans ce même évangile selon Luc ne désespère jamais de trouver sa brebis la plus perdue du monde. Et Jésus nous dit dans cette parabole qu'il finira par retrouver la brebis la plus perdue du monde. Donc Dieu ne désespère jamais de personne. Point de violence en Dieu contre aucun de ses enfants. C'est contre le mal qu'il combat, jamais contre le bonheur et la vie, jamais par le mal, jamais par la souffrance. Et donc nous non plus, normalement, nous devrions faire preuve comme ça de violence par pédagogie ou pour punir, par rejet. Jésus, il soigne, il enseigne, il nourrit, il reprend, il explique, il râle parfois, oui, mais il cherche encore et toujours le bien. Alors voilà pour les trois conseils dans notre rapport aux autres. Maintenant viennent trois conseils pour notre dynamique de vie dans la suite du Christ. D'abord, ne pas avoir de lieu où reposer notre tête. Cette remarque de Jésus n'est évidemment pas à prendre au sens littéral, puisque Jésus avait des points de chute, on le sait par l'Évangile, à Béthanie, chez ses amis Marthe, Marie et Lazare, dans son quartier général à Capernaum. Et nous voyons ici que même quand il est en voyage, il envoie devant lui des messagers pour courir devant et trouver un logement. Il s'agit donc bien de comprendre au sens figuré cette idée que le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. La tête doit continuer à avancer, jamais se reposer sur des certitudes durcies comme de la pierre. Attention, nous dit Jésus, à ne pas enfermer notre tête dans une boîte, ni dans une théologie, aussi juste soit-elle, ni dans une église, ni dans des sacrements, sinon aucun dialogue n'est possible avec d'autres, aucun écart n'est possible, ni avec d'autres personnes qui ne pensent pas exactement comme nous, parce qu'elles sont alors en dehors de la boîte, ni même avec Dieu, qui est le vivant, parce que dès que quelqu'un serait un peu en dehors de notre case, de notre boîte, nous nous sentirions mis en danger dans notre identité, finalement. Comme Pierre, quand il ose sortir de la barque pour marcher sur l'eau, tout d'un coup sent le vent fort, que la mer est profonde et commence à avoir peur. Eh bien non, avec cette grâce de Dieu, nous pouvons avancer en eau profonde. Car nous sommes faits pour évoluer. Les renards ont un habitus de renard et c'est très bien ainsi. Tel oiseau a un comportement de son espèce et c'est bien ainsi. Il n'en est pas de même pour nous. Chaque fils ou fille d'Adam est appelé à être dans un cheminement propre, personnel, en étant tous et toutes prophètes, nous dit la promesse d'Ézéchiel, d'Ésaïe, Jérémie et que nous dit Jésus-Christ. Et donc l'identité de chaque fils et fille d'Adam est dans le fait même de cheminer à sa façon, comme Christ chemine d'une façon unique, personnelle et surprenante. La tête doit donc continuer à avancer sans se reposer sur des certitudes. Il est bon, bien sûr, comme Jésus le fait ici, de chercher des lieux pour faire étape. On peut envoyer des porteurs de paroles, des bribes de théologie, finalement, des hypothèses volantes pour chercher un lieu d'étape, des hypothèses d'étape, une théologie, une pratique peut-être qui nous aide un temps à comprendre et à communiquer l'Évangile. Mais en restant prêt à rebondir, si cette théologie nous lâche, eh bien, ce n'est pas si grave, on ira dans un lieu théologique, comme Jésus va finalement dans le village suivant pour trouver un logement. On révisera notre façon de prier, on se lancera dans tel autre type d'action caritative, je ne sais pas. Et en restant prêt aussi pour avancer plus loin, pour monter plus haut quand le temps sera venu de monter. Alors ensuite, il y a une idée, une piste un peu délicate où Jésus dit « Laisse les morts enterrer les morts et toi va annoncer le royaume de Dieu ». Là encore, cette remarque de Jésus n'est pas à comprendre, bien sûr, au sens matériel du terme, mais au sens spirituel. Toi, Tu n'es pas mort, en fait. Ne désespère donc pas et va. Va au moins avec une parole tournée vers la vie, comme Dieu appelle à la vie. Et puis oui, le monde autour de nous est dans une certaine mesure mauvais. Le voisin est méchant, le patron est pénible, mais aucun n'est suffisamment mort pour qu'on l'enterre. L'intégrisme est enraciné finalement dans ce dualisme qui fait que ce qui n'est pas tout à fait bon est à nos yeux tout à fait méchant, tout à fait mauvais, tout à fait mort. Et en faisant cela, nous nous tuons nous-mêmes finalement, tuant notre espérance, tuant notre amour, tuant les autres à nos propres yeux, et parfois même tuant l'idée de Dieu en nous. En faisant cela, nous tournons le dos à la vie finalement, alors que personne n'est abandonné par Dieu à la mort. Même le plus blessé, nous dit la parabole qui est juste à la page d'après dans cet évangile selon Luc, n'est qu'à moitié mort. C'est comme ça que l'on peut considérer les gens. Donc n'enterrons pas trop vite ni nous-mêmes, ni notre espérance, ni les autres, mais parlons de la vie, saisissons, chérissons, sauvons la vie qui vient de Dieu et que nous discernons dans l'autre et dans ce monde. Enfin, sixième et dernière idée, Jésus semble rabrouer un disciple qui voulait aller embrasser ses parents avant de suivre Jésus. Est-ce que Jésus voudrait nous couper ainsi de nos proches, comme dans les sectes, de les quitter sans un au revoir pour suivre Jésus en tournant le dos à nos proches? Impossible, impossible, car l'Évangile valorise l'amour de l'autre sans condition. Impossible, car ce n'est pas le style de Jésus qui lui-même voyait sa mère, voyait ses frères, ses sœurs, ses amis régulièrement. Mais justement, il s'agit de voir autrement nos proches, nos relations avec nos proches, croyants ou non. Il ne s'agit pas de les laisser en arrière, de les abandonner, si vous voulez, en arrière et de les quitter, mais d'avancer pour eux aussi avec nouveaux regards, finalement, vers l'avant. Il s'agit de mettre la main à la charrue, c'est-à-dire se préparer déjà à l'idée d'ouvrir notre vie pour labourer l'écorce dure de notre terre, de nos sectarismes, de nos peurs, de nos incompréhensions, de nos préjugés. C'est une question de regard vers l'avant, de regard vers ce Christ qui est devant nous, avec cette envie d'ouverture du monde qu'indique la charrue, l'attente d'un ensemencement, suivre et ne pas craindre d'ouvrir notre monde, de laisser respirer notre terre. Alors, nous deviendrons fils et filles d'Adam, enfants de la terre et du souffle de Dieu. Amen.